La marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission enregistrée cette semaine au domicile parisien de l'historien français Stéphane Audouin-Rouzeau, spécialiste de la violence de guerre depuis plus de 3 décennies. Dans son nouveau livre intitulé « Une initiation », le chercheur livre un récit intime de sa sidérante confrontation au génocide des Tutsis perpétré au Rwanda entre les mois d'avril et de juillet 1994 où plus de 800 000 victimes ont été tuées. Le saisissement du génocide de 1994 a tout changé, écrit Stéphane Audouin-Rouzeau. Mais que s'est-il passé? C'est ce que je vous propose d'entendre aujourd'hui de la bouche de celui qui veut regarder en face ce que nous n'avions pas vu. Bonjour Stéphane Audouin-Rouzeau.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté de nous recevoir dans l'intimité de votre bureau. Nous sommes au milieu des livres qui vous entourent depuis des décennies et des livres qui traitent essentiellement de la Grande Guerre.
Oui, c'est un bureau de guerre, oui, c'est sûr. Un livre sur la Grande Guerre, un livre sur la guerre en général, avec quelques objets, quelques images, et en fait rien sur le Rwanda.
Là, vous êtes un historien de la guerre et plus particulièrement du combat au ras du sol, c'est une expression qui vous est chère. En ce qui concerne la Première Guerre mondiale, justement, mais paradoxalement, vous écrivez, Stéphane Audouin-Rouzeau, ne pas avoir regardé les génocides. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, ça rejoint cette phrase de Peggy que j'adore. Peggy dit « il faut voir ce que l'on voit ». Et on a beau faire des sciences sociales, on a beau effectivement, sur la question de la guerre, de la violence, de la brutalité, on a beau essayer de forcer son regard au plus près des pratiques, des acteurs sociaux, des configurations, eh bien, il y a des configurations que l'on manque. On passe à côté. On les voit, oui, sans doute, oui, on en entend parler, c'est ça qui s'appelle voir. Mais en réalité, on ne les voit pas. On ne les prend pas en considération, on ne les prend pas avec soi. Donc, on ne les comprend pas au sens vraiment étymologique du terme. Et ça a été le cas de ces génocides des Tutsis. Je dis dans le livre, c'est d'ailleurs un grand regret personnel. En 94, en avril 94, j'étais pas un jeune étudiant. Hein, j'étais presque professeur d'université. Hein, je m'intéressais à la guerre, je m'intéressais à la violence. J'avais quand même j'avais des moyens de voir. D'autant plus que je voyais très bien. À côté de cela, ce qui se passait dans l'ex-Yougoslavie, par exemple, j'étais indigné, hors de moi, en 95, lors du massacre de Srebrenica, et j'ai parfaitement vu, avant que le massacre arrive, quand j'ai su que les hommes et les femmes étaient triés, j'ai tout de suite compris ce qui allait se passer.
Et pourtant,
le Rwanda, rien.
C'est pourtant juste avant,
rien.
Un an avant.
C'est un an avant, avril, rien. Non seulement rien, mais je pense que je l'ai vraiment mis volontairement de côté, dans une sorte de rejet, de mépris, ça m'intéresse pas, c'est pas mes victimes. En d'autres termes, je crois que c'est ça, c'était pas mes victimes. C'est atroce à dire, mais c'est quelque chose de cet ordre, et c'est pour cette raison que, quand l'éditeur cherchait une couverture, je lui ai dit, je veux pas de portrait de victimes les uns à côté des autres, vous voyez, parce que le lecteur français, européen, immédiatement, sans même y penser, ces gens-là ne sont pas mes victimes. C'est atroce, c'est probablement néanmoins comme ça. Et donc, je crois qu'il faut l'admettre et faire ensuite tout un travail intérieur, et un travail intellectuel, et un travail de recherche, etc., etc. Enfin, un travail de sciences sociales, et pas seulement de sciences sociales, pour remonter la pente et revenir vers l'événement qu'on n'a pas voulu voir.
Et c'est ce que vous faites avec ce livre « Une initiation », Stéphane Audouin-Rouzeau. Alors c'est en 2008 que tout bascule, vous êtes invité par Hélène Dumas, à l'époque doctorante, vous débarquez à Kigali en pleine semaine commémorative, et vous écrivez ensuite dans vos notes « C'est un peu angoissant de sentir que 10 jours ici, dans ces conditions exceptionnelles, peuvent créer une rupture irréversible ». Alors je vous repose la question que vous n'avez de cesse de poser dans ce livre, que s'est-il passé, Stéphane Audouin-Rouzeau?
Il y avait un colloque qui s'organisait donc à Kigali autour d'Assumpta Mugwenyedza, qui s'organisait colloque à la fois commémoratif et aussi colloque où il s'agissait au fond de faire venir les sciences sociales françaises à Kigali, et donc Hélène Dumas a servi d'intermédiaire, de go-between. J'ai immédiatement accepté, parce qu'entre temps, quand même, depuis 94, j'avais compris que j'avais pas compris. Ça, au moins, je l'avais identifié, mais je ne connaissais évidemment rien sur place, donc j'étais très angoissé de ce que je pourrais bien dire là-bas. Et effectivement, une fois sur place, une fois débarqué dans cet hôtel, très agréable par ailleurs, et que le colloque a commencé, ce qui s'est dit, ce que me disaient les gens, j'ai senti en une journée ou deux, un point de basculement. J'ai senti un point de basculement que j'ai pris en note. J'ai noté que je sentais le point de basculement, c'est déjà ça. Je ne sais pas très bien où je basculais, mais il était parfaitement clair que je basculais dans un univers différent, ce que j'appelais le basculement d'un monde dans un autre. Et ce basculement, ce type de basculement est toujours définitif.
Alors vous allez être confronté notamment à des lieux de mémoire qui sont extrêmement forts et extrêmement impressionnant. Peut-être un mot tout de suite sur justement cette première visite dans ce premier mémorial.
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. Oui, effectivement, le jour du 7 avril, la commémoration avait lieu à Nyamata, donc la grande église commémorative près de Kigali, commémoration en plein air. Et là, évidemment, ce choc visuel immense hein, de cette église, hein, de cette église de Nyamata, et qui la première crise traumatique aussi que je vois, hein, c'est ces crises de reviviscence, au fond, accompagnées de hurlements, de convulsions, hein, de rescapés. Là aussi, j'ai été vraiment... je le sens encore aujourd'hui quand j'en parle. Quoi. Je me souviens vraiment encore de mon bouleversement. J'avais jamais vu d'être humain saisi par une terreur et par une douleur pareille et l'exprimant avec autant de force, hein, donc en public.
Et c'est aussi pour vous, Stéphane Audouin-Rousseau, les premières rencontres marquantes avec les rescapés, comme celle de Joséphine Campiré, que je suis allée rencontrer sur la colline de Nyarurama.
Si vous me demandez la vie que j'ai
traversée.
Donc c'est une radiographie
que
Joséphine déplie devant nous.
Oui.
Ça c'est l'arbre qu'ils ont enfoncé derrière mon dos. En fait ils m'ont tué et je ne suis pas morte. Tout ça, je vis avec. Et quand je vais à l'hôpital, on me donne des médicaments. Parce que je n'ai pas perdu une jambe, je n'ai pas perdu la main. Et j'essaie de travailler et de gagner ma vie. Je travaille pour moi-même, pour me nourrir, pour ne pas tendre la main à mes tueurs.
Donc non seulement c'est très difficile de continuer à vivre ici, mais c'est très difficile aussi de continuer à vous occuper de votre mémorial, de votre famille. Comment vous voyez, vous, Joséphine, ici, en haut de la colline ?
En fait, ici, je me vois d'abord comme une Rwandaise. Je me vois comme une personne de la famille, parce que j'ai marié la famille. Je me vois comme aussi propriétaire de cet endroit, en vivant dans ma propriété. Je vis ici aussi comme une personne qui a des souvenirs ici, de mauvais souvenirs que j'ai traversés ici, auquel j'ai droit de m'en souvenir et de vivre sans pour autant que personne m'en écarte. C'est mon droit et je lutterai pour ça.
Et à quelques dizaines de mètres de la maison de Joséphine, il y a la maison d'Augustin, l'un de ses voisins Hutu, qui a participé à la traque de son mari. Je suis allée voir Augustin qui lui a refusé de tuer au péril de sa vie.
Moi, vraiment, ils m'ont poussé à aller dans les attaques. J'ai participé dans les attaques. J'ai jamais tué une personne. Parce qu'on m'a obligé toujours de tuer une personne. J'ai toujours refusé. Voilà pourquoi moi, j'ai accepté ma responsabilité et je n'ai pas fait la prison.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une attaque ?
J'ai eu à participer dans plusieurs attaques. Ce n'est pas une ou deux ou trois, c'est plusieurs. Normalement, on attaquait un endroit où se cachaient des gens ou un endroit spécifiquement identifié où il y avait des Tutsis.
Et Ugo, babaga abafite umuhoro wakwirukanka ugutemeka gutema ufite impiri akayigukubita.
Ils étaient toujours munis des armes traditionnelles, des machettes, les lances, les massues, parce que quand une personne voulait fuir, il était macheté ou on lui lançait une lance ou bien une machette ou une massue.
Quand vous dites les personnes, c'est-à-dire c'était des hommes, des femmes, des enfants?
Ahanini cyabagari igitsina gabo. Ari abana b'abasore.
Sauf un vieux qui n'avait plus de force, tous y participaient, y compris aussi les femmes et les filles qui étaient souvent sur des collines et qui dénonçaient les cachettes des gens et qui criaient contre ces gens qui voulaient se cacher.
Est-ce que vous vous souvenez de l'attaque justement de la famille de Joséphine?
C'était aux environs de 15 heures. Et j'ai entendu des cris de ce côté. Si. Et quand tu entendais des cris, il fallait toujours y aller. Sinon, on t'accusait de ne pas avoir participé à l'attaque. Et c'est comme ça que je suis parti. Arrivé là-bas, j'ai vu qu'il venait d'achever son mari. Et ils l'ont jeté à ma présence. J'étais là. Ils l'ont jeté dans les latrines de son grand frère.
Augustin et Joséphine, deux voisins de la colline de Nyarurama, Stéphane Odouarouzou, une colline que vous connaissez bien, nous y sommes allés ensemble, parce que le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est un génocide de voisins. Comment, au fil de vos recherches, vous appréhendez aujourd'hui cette dimension particulière?
Alors, bien sûr, cette question du génocide des voisins, du massacre des voisins par leurs voisins n'est pas nouvelle. On la voit dans d'autres massacres de masse du XXe siècle, donc je ne vais pas le détailler ici. Mais il est certain qu'au Rwanda, cette question du voisinage a été centrale, puisque, bien sûr, il y a, comme dans tout génocide, un État qui organise, planifie le massacre avec les moyens d'un État, les moyens administratifs, les moyens militaires ou militarisés. Mais il est bien évident que la terrible efficacité meurtrière du génocide au Rwanda n'est pas concevable sans une mobilisation extrêmement intense des voisinages. On estime à peu près que probablement pas loin de 20%, donc moins de la population masculine, ne parlons pas des femmes et des enfants, a trempé finalement dans le massacre des voisins. Et sans ce massacre des voisins, on ne peut pas imaginer de tels chiffres de tués en un temps aussi bref, notamment dans les 5 ou 6 premières semaines. Alors, cette question des voisins est extrêmement difficile. Ce serait beaucoup plus simple s'il y avait, au sein de ces voisinages, une hostilité latente, ancienne, liée à la propriété, liée au bornage, liée évidemment à des choses de ce genre, à des conflits, finalement, de terre. Mais ce n'est pas ça dont il s'agit. Au contraire, avec ses voisins, tout indique qu'il y avait une certaine harmonie, évidemment, c'est pas un paradis, hein, mais que voilà, ces gens se connaissaient, travaillaient ensemble, les enfants se fréquentaient, il y avait des familles mixtes, puisque les mariages mixtes étaient très nombreux au Rwanda.
D'ailleurs, Augustin lui-même est issu d'une famille mixte, voilà. Et Joséphine me racontait qu'ils moissonnaient ensemble.
Exactement, et donc on est là devant un mystère, comment ce voisinage se retourne littéralement, et ce retournement du voisinage, c'est justement, il crée une surprise. Les victimes sont surprises chez elles par le voisin de toujours. Ils sont dénoncés par la voisine avec laquelle on travaillait quelques jours auparavant, par les enfants, etc.
Mais Stéphane Odouarouzou, est-ce qu'on peut tuer l'autre parce que finalement on ne le considère pas à l'égal de soi-même?
Je pense que c'est parce qu'il est très proche qu'on le tue.
Ça veut dire que ce serait le contraire?
C'est plutôt le contraire. Il y a deux choses ici. Bien sûr, nous sommes généralement habitués au racisme de la différence. Différence de la couleur de peau, différence de religion, différence de langue, différence d'habitude culturelle, etc. Et donc, la différence, au fond, ouvre le champ d'une violence possible. Dans le cas du Rwanda, et là c'est beaucoup plus compliqué, dans le cas du Rwanda, on est au contraire dans le racisme de la ressemblance, ou plus exactement dans le racisme de la différence inexistante, puisqu'il n'y a pas de différence ni somatique, ni religieuse, ni linguistique, ni culturelle. Donc la différence, s'il y en a une, elle est fantasmée. elle est fantasmée, elle est vraiment de l'ordre de l'imagination. Ben, du coup, il faut la prouver, cette différence. Quand s'ouvre ce temps du massacre, il faut se prouver à soi-même et à l'autre cette différence. Et le massacre sert à ça. Et les formes du massacre, cette cruauté incroyable, littéralement, dont on n'a pas encore fait le tour, cette cruauté incroyable dans la mise à mort des victimes, le langage, le discours qui est tenu aux victimes, soit par les gestes, soit par les mots, tout ça crée une différence. Là où la différence manque, on la crée parce que l'on fait à l'autre. C'est un langage.
Cette complexité du génocide, elle s'exprime lors des commémorations et particulièrement lors des crises post-traumatiques auxquelles vous avez assisté, Stéphane Audouin-Rouzo. Et je pense notamment à Nyanza, lors d'une commémoration enregistrée en 2009 par mon confrère Emmanuel Laurentin de France Culture, où l'on entend des cris qui résonnent au moment où Vénuste Kazirika raconte comment les soldats des Nations Unies ont abandonné les Rwandais à leurs tueurs dans l'école technique de Nyanza, où ils s'étaient réfugiés.
Vous entendez le début des premiers cris donc de ces femmes qui donc commencent à quitter la cérémonie et à partir emmenées par deux personnes de la Croix-Rouge.
Je crois que dans un premier temps, il faut recevoir le choc du génocide des Tutsis rwandais de 94. Il faut aller voir sur place ce que ça représente sans cette commotion que représente ce voyage. Je pense que le travail que l'on peut faire est bâti sur du sable.
Oui, parce qu'on est transformé, profondément transformé par ce qu'on y croise, ce qu'on y entend, ce qu'on y voit, et d'une certaine façon, on redémarre.
Le génocide rwandais, les Tutsis rwandais de 94 est une initiation. Et je le dis en tant que chercheur, on peut refuser cette initiation, on en a tout à fait le droit, mais à ce moment-là, il ne faut mieux pas en parler.
Ce sont les dernières secondes de la fabrique de l'histoire, Stéphane Audouin-Rouzo, et c'est à ce moment-là que vous qualifiez votre expérience d'initiation, et c'est aujourd'hui le titre de votre livre.
C'est incroyable d'entendre... C'est vraiment incroyable d'entendre cette émission enregistrée en avril 2009. J'en ai tout à fait la date en tête. Après mon premier voyage en 2008... dit à Emmanuel Laurentin, tu sais, si tu veux du son, va là-bas. Et il avait suivi ce conseil, il était parti, il était rentré évidemment bouleversé, donc en avril 2009, et il m'avait invité dans son studio à son retour, et il avait passé cet extrait, effectivement, de ces femmes, et dans le studio, le son était encore plus fort, et tout. On a été tous les deux saisi vraiment à la gorge par ces cris qui sont pas seulement des cris, c'est un dire, c'est un discours, ces femmes disent quelque chose, elles disent ils arrivent, ils reviennent, ils vont me tuer, ils me tuent, ils tuent mes enfants, etc.
Elles revivent.
Et voilà, c'est donc une reviviscence, qu'on appelle une reviviscence, mais évidemment les mots qu'on pose là-dessus sont tout de suite extrêmement faibles, quoi. Et puis ce côté technique de ces mots sont pénibles. Et puis bon, voilà, il fallait conclure, et c'est là que j'y avais jamais pensé, bien sûr, j'ai dit voilà, c'est une initiation. En fait, l'initiation, je ne sais pas si je l'avais subie sur place ou si je la subissais vraiment dans le studio, en quelque sorte, en entendant ces cris comme si j'étais vraiment à côté. Et donc, effectivement, ce mot, je l'ai remployé pour titrer ce livre. Je crois que c'est ce qui dit le mieux ce que j'ai essayé de faire. Ce qui caractérise une initiation, c'est qu'il y a un avant et un après. Et il n'y a pas de retour dans une initiation.
Une initiation, c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Seuil. C'est votre expérience de l'événement le plus important du XXe siècle, ce sont vos mots. Et c'est à suivre dans La Marche du Monde.
La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
C'est la suite de la Marche du Monde sur RFI, accueillie dans la maison de Stéphane Audouin-Rouzeau à Paris. Nous écoutons son récit initiatique de sa confrontation avec le génocide des Tutsis du Rwanda, sur les traces duquel il s'est rendu plusieurs fois depuis 2008. Une expérience qui a tout changé, écrit-il. Ses certitudes d'historien, ses convictions de citoyen, au point qu'aujourd'hui, il pense que la recherche sur le génocide des Tutsis du Rwanda ne peut s'affranchir d'être aussi un combat. Stéphane Audouin-Rouzeau, jusqu'où votre confrontation au génocide des Tutsis du Rwanda vous a-t-elle changé? Vous qui êtes connu pour votre conservatisme, mais aussi pour votre réserve, comment avez-vous été amené à vous engager et quel sens donnez-vous par exemple à votre engagement lorsque vous rédigez une note blanche à l'attention de la présidence de la République sur le rôle de la France au Rwanda?
D'ailleurs, pas qu'une seule, mais deux. Je crois que l'opération Turquoise est intéressante parce que elle est le point focal où toutes les contradictions et tous les errements de la politique française, si vous voulez, se voient, en quelque sorte, se révèlent. Hein. En particulier, le fait que l'opération Turquoise, à l'origine, n'est pas une opération humanitaire, en tout cas, n'est certainement pas que cela. Elle est peut-être prioritairement une opération donc de co-belligérance avec le gouvernement intérimaire qui a pris la responsabilité de lancer le génocide et qui tient désormais tout le sud-ouest du pays.
Vous dites en l'occurrence qu'elle finira par être une opération de sauvetage, mais que dans son
elle se convertit en opération effectivement humanitaire de sauvetage. Et heureusement d'ailleurs qu'elle se convertit, car sinon, je ne sais pas si vous imaginez quelle serait la situation de la France aujourd'hui si elle avait réellement engagé ses armes avec le gouvernement intérimaire. Elle se convertit effectivement dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, des témoignages tout à fait irréfutables d'anciens de Turquoise à ce sujet. Et il apparaît que la France jouait évidemment une sorte de double jeu au Rwanda et que finalement l'humanitaire en quelque sorte l'a emporté. Mais avant cela, si je puis dire, avant cela et même pendant cela, puisque c'est très difficile de convertir évidemment un dispositif et les hommes qui le portent, convertir du tout au tout, de faire convertir à 180 degrés, il y a donc une ambiguïté fondamentale dans l'intervention française. Et malheureusement, plus les choses avancent, plus les témoignages sortent, plus les enquêtes progressent et plus, malheureusement, les nouvelles sont mauvaises.
Et vous évoquez également le déni qui serait nourri par la cohabitation, puisqu'à l'époque, certes, François Mitterrand est président de la République, mais nous sommes dans une période où c'est à la fois la gauche et la droite qui est au pouvoir.
Oui, c'est la gauche et la droite qui est au pouvoir. On est en cohabitation, effectivement, depuis le début 93, et la droite est elle-même divisée. La droite est complice d'une politique qui est prioritairement déterminée donc, par l'Élysée. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il est extraordinairement difficile, à droite comme à gauche, de reconnaître. Sinon, ça serait très simple. Un camp se servirait des erreurs commises au Rwanda contre l'autre. Mais justement, pas possible. Les deux camps, si je puis dire, restent solidaires l'un de l'autre pour dire finalement que la politique française a été irréprochable. Et ce que je trouve absolument terrible, c'est qu'on le dit peut-être plus aujourd'hui qu'on le disait, par exemple, en 1998, dans le fameux rapport Quillès, qui, bien qu'indulgent pour la France, beaucoup trop indulgent pour la France, reconnaissait toute une série d'erreurs. Sarkozy, à Kigali, en 2010, a également reconnu assez franchement toute une série d'erreurs. Personnellement, je lui en sais gré. Mais il me semble que depuis, on a plutôt reculé qu'avancé. Et c'est en ça qu'effectivement, la question du génocide des Tutsis rwandais est un combat dans lequel il faut absolument arriver à faire reconnaître, à faire connaître et reconnaître ce qui s'est joué du côté français.
Mais Stéphane Audouin-Rouzeau, il y a d'autres exemples dans l'histoire, la reconnaissance par exemple de la participation de l'État français dans la déportation des Juifs, ça a mis 50 ans. Pourquoi sur le Rwanda, ça devrait être plus rapide miraculeusement?
Et alors effectivement, c'est ce que j'appelle la règle des 50 ans. 50 ans pour que soit reconnu le rôle de l'État français dans l'extermination des Juifs de France. Le cas de l'Algérie est également intéressant. Il a fallu 50 ans aussi, pour la première fois en 2012, lors du cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie, aux Invalides, donc en milieu militaire, la torture a eu droit de cité dans les vitrines, dans les commentaires, et elle ne posait plus problème. La reconnaissance de son existence par l'armée française ne posait plus de problème, alors alors qu'elle en posait encore de considérables seulement 10 années auparavant. Alors je crois que ce qui est important dans le cas du Rwanda, c'est d'accélérer, c'est-à-dire d'éviter que cette règle des 50 ans qui pourrait devenir une règle des 60 ans ou davantage, il faudrait absolument accélérer et obtenir effectivement une forme de reconnaissance de ce qu'a été la politique française plus tôt.
Vous écoutez RFI, la marche du monde.
Munyarwanda nkwibutse se kwibuka kuhora wibuka uko mwana gato ukamwibuka cyangwa se ukabibuka ntabanga nguhishe mana ndananiwe umutima wanjye urantegeka nabuze imbaraga unduhure ndacyabunamiye sindatigiti.
Oh Dieu, je ne soustrais aucun secret. Je suis exténué. Que je suis fatigué. Mon cœur y revient-on? La force me fait défaut. Accorde-moi du répit. Je les porte encore en deuil. Je n'ai pas encore balayé les cendres. Je ne prétends pas te rappeler le souvenir. Tu le rappelles constamment. Le moindre sursaut te plonge dans le souvenir de l'un ou des autres. Avec une indicible tristesse, je me souviens de ces bébés agonisants. Je me sens défaillir. Leurs mères furent déshonorées par leurs bourreaux avant le coup de grâce. Je les porte encore en deuil. Je n'ai pas encore balayé les cendres.
Abajugunywe mu manganizo bondabibuka nabashangukiye musozi hari nababuriwe irengero ndacyabunamiye sindatigiti.
La voix de Maria Joanna Mukankuranga dans la marche du monde. Elle chante le génocide des Tutsis du Rwanda, un chant intitulé « Dois-je te rappeler le souvenir ?». Vous avez souhaité publier la traduction de ce texte, Stéphane Audouin-Rousseau, qui évoque la pratique du deuil au Rwanda, puisqu'après un décès, le feu brûle pendant toute la veillée mortuaire, parfois même pendant 8 jours. Et puis ensuite, on balaye les cendres en signe de fin de deuil. Sauf que là, on n'arrive pas à balayer les cendres.
Oui, c'est ça, les cendres, on n'arrive pas à fermer le deuil. C'est tout le problème du deuil au Rwanda, parce que justement, il n'y a pas eu de cérémonie de deuil. Le deuil, on est en présence évidemment de morts violentes, de corps qui ont été basculés dans les latrines, basculés dans des fosses communes où il est souvent extraordinairement difficile ensuite de reconnaître, même après les exhumations et les réinhumations en dignité, ces réinhumations en dignité qui se poursuivent encore au Rwanda aujourd'hui. Et évidemment, toutes les procédures, disons, du deuil ordinaire, donc ont été subverties par la violence, et ce deuil évidemment ne peut pas être fermé. On est dans la configuration du deuil éternel.
D'autant que les rescapés ne savent pas où sont les corps de leurs proches. Et c'est le cas d'Emilienne, une femme qui occupe une grande place dans votre livre. Emilienne est aujourd'hui psychothérapeute et elle accompagne d'autres femmes dans leur long processus de reconstruction. Cette femme magnifique, nous l'avons rencontrée le 3 octobre 2013, le jour où Maria Joanna Mukankuranga a chanté cette difficulté du deuil. Emilienne acceptait alors pour la première fois d'être enregistrée à mon micro. Écoutez comment elle évoque les années qui précèdent le génocide, ces années 90, où elle était alors maîtresse d'école.
J'ai envie de dire qu'en 1990, déjà, on tuait les gens là où j'enseignais. Oui, on tuait les gens. Il y a eu un garçon pendant la journée, on l'a tué, On a lancé des pierres et il est mort. Alors on a dit, ah, on a tué le Tutsi, on a tué le Tutsi. Comme on savait que je suis Tutsi aussi, ma classe et les enfants disaient, ah, tu sais maîtresse, on a tué le Tutsi de terre. Et il nous a dit que toi aussi tu es Tutsi. Peut-être qu'on va te tuer toi aussi. Quand la guerre a commencé, j'ai remarqué une sorte de désordre. Alors, j'avais pas l'autorité que j'avais avant devant les enfants. Les enfants ont commencé à me désobéir.
Donc, il y avait ce climat qui existait dans la classe, au sein des enfants. Quelles sont les premières violences auxquelles vous avez été personnellement confrontée? Et à quel moment?
C'était en 90, c'était avant vraiment le génocide. Parce que là où je travaillais, c'était pas dans ma région natale. Alors on a fait avec d'autres collègues, on travaillait ensemble, on a été chez les prêtres 3 jours. Tu ne pouvais pas aller de la commune à l'autre, parce que tu devais montrer le laissez-passer dans le même pays. Et ça, on te menaçait, on te regardait, parce qu'il y avait des barrières, tu montrais tes papiers, et on te demandait, où est-ce que tu vas, toi, Otani, Nyenzi, où est-ce que tu vas? Nyenzi, c'est comme kafar, ça veut dire que tu étais non désiré, que tu étais menacé en quelque sorte.
De 1990 à 1993, Emilienne vit 3 années d'escalade, de tension entre voisins.
93, j'ai continué à enseigner, je montais un peu avant d'arriver à l'école. Alors j'ai vu tous les élèves avec les pierres. Alors on m'a lancé les pierres, je suis retournée en arrière en courant. Je ne savais pas comment on avait organisé ça. Alors que je vis les enfants me lancer les pierres, ça a été horrible pour moi. Je n'ai pas compris. Et je ne sais même pas comment on avait organisé ça. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Et je ne sais pas si j'ai voulu savoir. Et pourquoi savoir, voilà.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez été obligée d'arrêter?
Oui, j'ai été obligée d'arrêter d'enseigner. Parce que c'était pas possible, tu pouvais pas enseigner dans ces conditions. Non, j'ai préféré rester à la maison jusqu'en 94, quand le génocide a commencé.
Et ensuite, ce sera le génocide de 1994 pour Emilienne. Et depuis cette première rencontre avec Emilienne, Stéphane Audouin-Rouzeau, un long compagnonnage s'est installé entre vous, qui a permis à Emilienne d'écrire son histoire.
Il est facile de comprendre ce qui peut se jouer. On voit l'aspect très, très extraordinaire, très profond de sa parole, la chaleur particulière qui se dégage de ce témoignage que je ne connaissais pas, que je vous remercie de m'avoir fait écouter. Et on voit le rôle des enfants ici. On voit le rôle des enfants. Elles demandent qui a organisé ça, mais peut-être personne. Ils se sont très bien organisés, éventuellement eux-mêmes, sur cette menace comme ça, qui était absolument extraordinaire. Donc effectivement, Emilienne, je l'ai rencontrée pour la première fois, effectivement, juste avant que vous ne réalisiez cet entretien. Et puis, en 2014, j'ai amené un groupe d'historiens, pas seulement d'historiens, il y avait une anthropologue, Elisabeth Clavery, qui était avec nous. Enfin, c'était surtout quand même des historiens. Donc il y avait Henri Rousseau, Nicolas Vert, Tadette Becker. On a donc fait un grand tour au Rwanda. On a terminé par les commémorations. Et bien sûr, tout le monde a rencontré Emilienne. Emilienne nous a amené dans sa maison détruite, sa maison de futur jeune marié qu'elle n'a jamais occupée, qui est à Mouchoubati, donc au-dessus du Kivu, a été détruite pendant le génocide. Est détruite à plusieurs reprises ensuite quand elle a cherché en tant que survivante à la reconstruire. Et il y a eu là un moment que inoubliable où elle nous a dit qu'au fond notre présence sur place, à laquelle elle était réticente parce que la maison ne pouvait pas nous accueillir puisqu'il n'y avait plus de toit et elle ne pouvait pas faire la propreté comme on disait, donc les conditions de l'accueil n'étaient pas réalisées, mais elle nous a dit voilà, puisque vous êtes là, donc ça va me donner la force de recommencer, je vais tenter de reconstruire à nouveau cette maison. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle l'a fait. Et le voisin, qui appartient à une famille de tueurs, son voisin le plus proche, donc a désavoué devant elle sa propre famille et lui a dit qu'il veillerait désormais sur la maison. Et cette maison, donc, nous l'avons inaugurée en avril 2016. C'est un événement inoubliable. elle l'a fait.
Il faut bien se rendre compte que ce soit pour Émilienne ou que ce soit pour Joséphine, le fait de reconstruire une maison, le fait de l'habiter, c'est un combat de chaque jour.
Ce qu'on ignore généralement en France, c'est que le génocide, certes, est, si on peut dire, politiquement, militairement terminé, mais il ne l'est pas dans les têtes, il ne l'est pas peut-être culturellement. Les rescapés, qui sont très peu nombreux, hein, les rescapés vivent au milieu, soit au milieu des tueurs, comme Joséphine, qu'on a évoqué, soit au milieu de descendants des tueurs. Aujourd'hui, la quasi-totalité des tueurs sont sortis de prison. Plus de 20 ans ont passé. Et les familles, elles se sont reconstituées, mais les rescapés, par définition, sont seuls. Leurs proches ayant été tués. Et il faut vivre en symbiose donc avec ceux qui ont tué les vôtres ou qui en sont apparentés à ceux qui ont tué les vôtres.
Vous écoutez La Marche du Monde sur RFI. Nous sommes accueillis dans la maison de l'historien Stéphane-Audouin Rouzeau pour évoquer ses recherches sur le génocide de 1994 au Rwanda. Et ce qui est nouveau, en 1994, c'est la profanation des églises par les tueurs. Et vous insistez sur le cas de Nyange, où c'est le vicaire lui-même, Athanase Serumba, qui donne l'ordre de détruire l'église qui s'effondre sur 3000 personnes.
Le Rwanda, ici, une fois de plus, est un cas limite. Il y a, dans l'histoire, nous savons tout en termes de violence interreligieuse. Bien sûr, entre protestants et catholiques, musulmans et chrétiens, hindouistes et musulmans. Mais là, dans une population massivement catholique, les violences sont intra-religieuses. En outre, elles se produisent donc dans les lieux sacrés, dans les églises. Les églises ont été le deuxième lieu de massacre après les collines. Alors, les collines, c'est les massacres en plein air, et après, ce sont les églises. Massacrer dans une église, c'est évidemment pas anodin. Massacrer ses coparoissiens, c'est pas anodin. Pour un prêtre, massacrer ses paroissiens, évidemment, c'est une situation absolument limite, effectivement, qui est celle du père Athanase Serumba, qui a été jugé et lourdement condamné au TPIR, donc à Arusha. Mais la question qui se pose d'un point de vue de science sociale, c'est qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui se joue? Je pense qu'il y a une dimension sacrale dans le massacre, c'est-à-dire que le massacre se déroule dans un lieu religieux, mais il est également religieux. Le massacre est également religieux parce que sinon, on ne comprendrait pas que les tueurs prient avant le massacre, dans un certain nombre de cas, ou pendant le massacre. On ne comprendrait pas les pratiques de profanation des statues, en particulier les statues de la Vierge, hein, qui sont profanées systématiquement, les profanations des linges d'autel, etc. Il y a une sorte de révolte contre Dieu dans la maison de Dieu. Et ça, c'est extraordinairement difficile à comprendre parce que nous ne disposons pas aujourd'hui d'une anthropologie religieuse qui permette de comprendre ce qui s'est joué là.
Stéphane-Audouin Rouzeau, votre livre Une initiation fait écho à un autre livre. Il s'agit du livre de Nicolas Vert intitulé Sur la route de la Colima. Pour quelle raison?
C'est vrai que quand j'ai lu ce livre de Nicolas Vert, j'ai eu envie de faire la même chose. Le problème, c'est que je ne pouvais pas faire la même chose. Pourquoi? Parce que Nicolas Vert, donc très grand historien, bien sûr, de la Russie soviétique, du stalinisme, du goulag, connaissait absolument toutes les archives quand il a décidé d'aller donc sur place, sur les lieux, donc dans la Colima. Il découvre au fond ce qu'il sait déjà. Évidemment, il y a des tas de choses qu'il ne sait pas. Les archives ne disent pas tout, jamais. Tandis que moi, ma situation est tout à fait différente. J'ai déjà été au Rwanda, à plusieurs reprises, à partir de 2008, mais je ne sais rien. Plus exactement, j'en sais beaucoup trop peu. Et c'est une situation dissymétrique, mais c'est vrai que ce livre de Nicolas Vert, qui est venu avec nous tous au Rwanda en 2014, m'a inspiré de manière déterminante.
Alors pour vous, j'ai demandé à Nicolas Vert, grand spécialiste du goulag, soutenu par ses amis de l'association Mémorial, de revenir sur les raisons qui l'ont poussé à partir sur cette route de la Colima.
Quelque chose me manquait, le contact sensoriel, enfin disons, j'avais beaucoup voyagé en Russie, mais je n'étais jamais allé véritablement sur ces lieux les plus déshérités du goulag. C'est très très beau comme paysage parce que on a ces immenses forêts, c'est un relief où on voit d'immenses horizons. C'est un très beau paysage et évidemment On ne peut tout de suite que penser à ce que disait Chalamov, qui à la fois reconnaissait que c'était un beau paysage, mais qui n'a dit « je n'ai jamais regardé non plus ce paysage » parce que c'est au fond à la fois le lieu de l'anéantissement et de la beauté. Donc il y a quelque chose qui se télescope, qui est très troublant. C'est sans doute pas le seul endroit du monde. Le Rwanda est le plus beau pays d'Afrique. C'était absolument magnifique. Où se situent voilà, ces horreurs sans nom, qu'est le génocide des Tutsis. Bon.
Nicolas Werth, puisque cette route de la Colima a inspiré dans sa démarche l'écriture d'une initiation de Stéphane Audouin Rouzeau, et puisque vous avez eu l'occasion, à l'invitation de Stéphane Audouin Rouzeau, de vous rendre au Rwanda, qu'est-ce qui vous frappe, au fond, dans la différence entre le rapport à la mémoire que vous avez pu constater dans cette Colima aux traces quasi inexistantes et l'expérience que vous avez pu faire des sites mémoriels du génocide des Tutsis au Rwanda?
C'est vraiment l'opposé, puisque d'un côté, on a en effet des traces qui disparaissent, et de l'autre côté, ce qui frappe celui qui voit pour la première fois ces mémoriaux du génocide au Rwanda, c'est le contraire, c'est la monstration spectaculaire, même troublante, gênante, de ces corps qu'on donne à voir. C'est une expérience absolument enfin, terrible. Moi, je suis allé à Auschwitz, je suis allé sur nombre de sites d'extermination par les nazis. J'avais l'habitude d'aller dans des sites de mémoire, de massacre, mais montrer au fond de manière aussi démonstrative ces corps mutilés, c'est quelque chose d'extrêmement dérangeant.
Quelle question voudriez-vous poser à Stéphane Audouin Rouzeau qui vous écoute, Nicolas Werth?
Sans doute, comment, une fois qu'on a écrit l'initiation, quel sujet aborder, comment continuer notre travail d'historien?
Je vous laisse répondre, Stéphane Audouin Rouzeau.
C'est une grande surprise, évidemment, que ce dialogue organisé par le miracle de l'enregistrement avec un ami aussi proche que Nicolas Werth. Comment continuer? C'est une question que je me pose tous les jours et je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas tellement revenir en arrière. Je ne me vois pas, et je ne sais pas si quel est le cas de Nicolas, mais je ne me vois pas faire de nouveau un ou des livres de sciences sociales comme je les ai fait auparavant. J'ai brûlé mes vaisseaux. J'ai brûlé mes vaisseaux parce que c'est le sujet, mais ceci, la manière de le faire, où la subjectivité du chercheur n'est pas derrière son texte, mais devant. Et à partir de quand vous avez fait cette initiation dans l'initiation, si je puis dire, ou cette forme de transgression, hein, au fond, en termes d'écriture des sciences sociales, il est très difficile de revenir en arrière.
En tout cas, il y a un mot qui revient dans votre livre, Stéphane Audouin Rouzeau, c'est le mot d'engagement, très étonnant de votre part, un mot sans doute que vous n'auriez pas utilisé avant, dans cette avant-confrontation avec le génocide des Tutsis du Rwanda. Et vous dites même qu'il y a une leçon rwandaise, il y a un avertissement qu'il faut entendre.
Oui, engagement, j'aime pas beaucoup les engagements, c'est bizarre parce que au contraire, les gens généralement applaudissent à l'engagement. On est souvent fasciné par les gens qui croient à leurs idées, comme on dit. J'ai horreur de ça, personnellement. Justement, je méfie de mes propres idées et de celles des autres. Mais dans le cas du Rwanda, je crois que là, on est devant un combat indiscutable. Et il faut ce combat, c'est celui de littéralement d'habiliter ce génocide à hauteur des autres, qu'au moins on n'insulte pas de manière supplémentaire les victimes en les oubliant et en faisant de ce génocide un génocide oublié. Il faut qu'au moins, puisqu'on n'a pas su l'empêcher, c'est le moins qu'on puisse dire, mais qu'au moins cet événement soit reconnu disons, à sa juste place. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est un avertissement parce que je crois que si nous mettons à distance un événement comme celui-là avec toutes les leçons qu'il recèle, en particulier en termes de violence de voisinage, nous faisons, je crois, une très grave erreur. Je crois que nos sociétés pacifiées, ces sociétés à haut niveau de pacification, comme disait le sociologue Norbert Elias juste avant la Deuxième Guerre mondiale, quelle ironie, ces sociétés à haut niveau de pacification recèlent un potentiel de violence beaucoup plus important, sans doute, que nous voulons bien le voir. Et je crois que tout le monde comprend à ce à quoi je fais allusion. Et donc, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant. Extrêmement vigilant. Je ne suis pas en train de dire, bien entendu, qu'il peut nous arriver ce qui est arrivé au Rwanda en 1994, en tout cas pas demain, bien sûr. Mais les processus qui ont mené à cette catastrophe au Rwanda en 1994 peuvent se répliquer ailleurs, et croire que nous en soyons immunisés pour toujours me paraît une erreur extrêmement grave. Il faut la combattre.
Merci. Rwanda, l'initiation de Stéphane Audouin Rouzeau. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et mise en onde par Elliot Bourrel. N'hésitez pas à réagir à cette émission, nous écrivons à l'adresse suivante marche.monde@rfi.fr ou encore sur notre page Facebook. Écoutez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.